L'intérêt que vous portez à l'UEMOA. D'abord, je pense une première question du professeur sur la trajectoire commune des pays membres de l'UEMOA et le risque de mimétisme. Je pense, si je comprends bien, c'est ça votre question. Comment tenir compte des valeurs locales? Je pense que il faut dire d'emblée qu'il n'y a pas de mimétisme. Je pense que nous avons des États qui sont indépendants depuis 1960, qui partagent depuis une monnaie commune, certes, qui partagent également des réalités très locales, et avec des administrations qui ont acquis une certaine expertise en la matière, et des dispositions fiscales qui sont souvent spécifiques d'un pays à l'autre. Donc l'idée d'être dans une communauté et de pouvoir harmoniser nos politiques, notamment fiscales, je pense nous permet simplement d'être plus forts. Et les réalités locales sont bien prises en compte. Si je prends l'exemple, par exemple, des exonérations dans certains produits de consommation de base, je prends le cas de l'électricité, ou dans certains pays, il y a des tranches qui sont exonérées. Cela est autorisé également par le système d'harmonisation de l'UEMOA. Je pense que ça permet non seulement de prendre en compte les couches les plus faibles, tout en se conformant aux dispositions communautaires. Donc je pense que ce mimétisme-là n'existe pas. Maintenant, au point de vue international, on parle plus de bonnes pratiques. Il n'est pas interdit de s'inspirer de ce qui se fait de mieux en matière fiscale comme dans d'autres domaines. Je pense qu'il y a des gens qui font mieux. Nous avons également des objectifs spécifiques en termes de mobilisation de recettes et de diversification de nos économies. C'est les deux thèmes qui sont vraiment à l'ordre du jour actuellement dans nos États. Nous sommes dans des États où la place de l'administration est déterminante, les besoins d'investissement sont élevés et la mobilisation des ressources intérieures est d'une importance capitale. C'est pourquoi nous donnons une place importante à la mobilisation des ressources intérieures et au relèvement du niveau de pression fiscale. Nous avons un objectif au sein de l'UEMOA d'atteindre un taux de pression fiscale de 20%. Pour le moment, il y a un État ou deux qui le respectent, les autres sont beaucoup plus bas. Il s'agira donc, par des mesures internes, par l'identification de niches, de parvenir à tirer ces États vers ces taux de pression. Il y a également cette harmonisation dont j'ai parlé, du code des investissements, du code minier, pour éviter justement cette compétition fiscale. Et je crois que ça me paraît déterminant, et des cadres PPP, parce que c'est là où peut-être se situe le grand risque, aussi bien pour les problèmes d'endettement. Nous sommes à des niveaux d'endettement souvent élevés, avec des besoins d'investissement également très, très importants. Il faut donc mettre l'accent sur cette mobilisation de recettes et amoindrir le niveau des exonérations en ayant un cadre légal PPP partagé. Pour ce qui concerne l'OADA, Madame a parlé de superposition, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'OADA s'occupe essentiellement de l'harmonisation du droit des affaires. Et donc, droit des sociétés et autres. Le champ d'intervention de l'UEMOA est beaucoup plus large. C'est une union économique et monétaire. Je l'ai rappelé tout à l'heure, ses objectifs, c'est donc d'avoir un cadre des économies économiques plus compétitifs pour les 10 États, d'harmoniser les politiques fiscales, les politiques douanières, d'harmoniser également les politiques sectorielles. Donc, l'OADA, ce que nous partageons essentiellement avec cette organisation, c'est le droit des affaires qui s'applique à des États qui englobe un cadre beaucoup plus large. Hein. L'OADA comprend Madagascar et beaucoup de pays d'Afrique centrale, donc va au-delà de l'UEMOA. L'OADA ne s'occupe pas de fiscalité, par exemple, ni de questions douanières. Voilà donc ce que je peux dire pour ces deux interrogations. Je laisse la parole à M. Diallo.